C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Au Tchad, plus de 1 million de personnes sont affectées par des inondations dues à des pluies hors normes. Au Nigeria, le même phénomène a tué 600 personnes et dévasté l'agriculture. Dans le sud-est du Niger, dans la région de Diffa, ce sont 2800 personnes qui ont été déplacées par des inondations et qui vivent aujourd'hui dans le dénuement le plus total. C'est le changement climatique causé par l'activité humaine qui a rendu ces événements 80 fois plus probables et 20% plus intenses. C'est la conclusion du World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques capables d'évaluer en peu de temps le lien entre les événements météorologiques extrêmes et le changement climatique. Ces phénomènes vont s'accentuer, nous le savons, mais peut-on les anticiper pour mieux y faire face? C'est l'objectif du premier centre de formation dédié au numérique pour lutter contre le dérèglement climatique en Afrique de l'Ouest qui s'est ouvert à Ouagadougou à l'université Joseph Kizerbo. Samuel Turpin nous y emmènera dans un instant. Mais quel va être le prix de l'action climatique pour les pays du Sud? 2400 milliards de dollars par an, répond l'économiste britannique Nicholas Stern. Qui va financer quoi? Il nous expliquera tout cela. En attendant, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
So, you have to know that for the global system, you have six kind of components, okay? We have the atmosphere.
Sawadago Wenmanagda, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ici, on est dans votre salle de classe.
C'est une salle de classe de master en changement climatique et informatique. Donc, on a juste introduit aux étudiants quand on parle de modèles climatiques. Comment est-ce que ça fonctionne? On les initie aussi à l'utilisation des HPC, c'est-à-dire des supercalculateurs, puisque ces modèles-là, il faut les simuler sur des supercalculateurs.
Et vous donnez vos cours en anglais?
Oui, en anglais, parce qu'on a des étudiants qui viennent de 12 pays différents de l'Afrique de l'Ouest. Après la sélection, ils sont tous envoyés au Ghana pour apprendre l'anglais.
Eh bien, on va leur donner la parole, si vous nous le permettez, monsieur le professeur. Est-ce qu'on peut interroger quelques-uns de vos étudiants et vos étudiantes?
Oui.
Merci. D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous?
Fatih Fadilat.
Et de quel pays venez-vous?
Bénin.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce programme? Quelles sont vos motivations?
Pour commencer, moi j'avais un background en hydrologie où je travaillais beaucoup sur la variabilité climatique. Donc ce programme nous aide à avoir les outils, les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler sur des projets qui pourront nous permettre de combattre le changement climatique.
Donc c'est vraiment un renforcement de capacité informatique pour le mettre au service de programmes qui sont liés à l'adaptation et atténuation du dérèglement climatique.
Oui, effectivement, c'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
Et moi, c'est Koulidiati Serafin Palabanga Ousseni.
De quel pays?
Du Burkina Faso.
Pourquoi vous êtes inscrit sur ce programme?
Et ce programme combine ces deux domaines dont je rêvais de faire dans ma vie, à savoir le climat associé aux sciences technologiques. Si j'étais bien outillé avec ce programme, je pourrais aider le gouvernement à travers l'analyse des données, à travers les prévisions, pour une meilleure prise de décision.
Merci. Professeur, on va vous laisser travailler avec vos étudiants. On ne veut pas déranger la classe de manière supplémentaire. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Les formidables capacités de calcul et de statistiques qu'offre l'informatique permettent d'avancer à pas de géant dans les modélisations et les scénarios du changement climatique. C'est un outil formidable pour prévoir les catastrophes naturelles ou accélérer le développement des énergies renouvelables. Voilà pourquoi le premier centre de formation dédié au numérique pour lutter contre le dérèglement climatique en Afrique de l'Ouest s'est ouvert à Ouagadougou, à l'université Joseph Kizerbo, avec l'appui de l'organisation régionale VASCAL. C'est un programme de master et de doctorat qui permet à des professionnels et à des étudiants de maîtriser et d'intégrer la puissance de l'informatique dans leurs recherches pour développer des outils applicables dans notre vie quotidienne. C'est un reportage de Samuel Turpin. Il va à la rencontre du professeur Pierre Zangra Natunga, directeur de ce cursus.
On vous suit ?
Oui. Je vous accompagne vers monsieur le directeur, le professeur Tanga Pierre Zangrana.
Alors, le bureau est
le par bureau là. Est par là. C'est son secrétariat.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bon, je viens voir monsieur le directeur. Est-ce qu'il est là?
Oui, il est là.
Voilà. Le bureau des directeurs.
Oui.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Je vous en prie, asseyez-vous.
Alors, professeur, en quoi consiste ce programme?
Nous recevons des étudiants venant de toutes les disciplines, on va dire, qui s'intéressent au changement climatique. Et on voudrait les outiller en capacité à collecter et à traiter des données climatiques en vue de proposer des outils opérationnels pour les décideurs. Ce programme est né en 2017 à l'Université Joseph Kizerbo, mais est seulement opérationnel depuis 2020. Nous sommes pour l'instant dans une phase pilote au cours de laquelle nous formons des étudiants de master pour constituer une masse initiale de compétences qui peuvent prétendre et au doctorat et aux structures de développement. Et nous envisageons dans une prochaine phase d'ouvrir le cycle doctoral.
Et vous recevez à la fois des étudiants, mais aussi des professionnels, hein, des gens qui sont déjà dans la vie active.
Oui. Dans la première promotion, nous avons eu beaucoup plus de professionnels que dans la deuxième. Notre souhait, c'est de mettre ensemble des gens qui ont déjà de l'expérience professionnelle à partager avec des étudiants en formation initiale qui arrivent avec un savoir mais qui n'ont pas le savoir-faire, afin que chaque enseignement soit une occasion de partage permettant de passer de la connaissance théorique à la pratique.
Alors, c'est un programme transversal qui s'inscrit dans une logique de pluridisciplinarité imaginé par le réseau WASCAL. WASCAL, c'est une organisation présente dans tous les pays de la CEDEAO qui a pour objectif de stimuler la recherche scientifique et de soutenir le développement de solutions pour faciliter l'adaptation et l'atténuation aux effets du dérèglement climatique.
Cette filière de formation fait partie d'un lot de 12 formations réparties dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Le point commun entre ces programmes étant le changement climatique. Et la formation développée dans chaque pays est unique dans le réseau. Pour former une complémentarité et embrasser une diversité de domaines comme la biodiversité en Côte d'Ivoire, agriculture au Mali, changement climatique et énergie au Niger, le risque de catastrophe naturelle, l'agronomie, il y a la foresterie, il y a l'énergie, habitat, système climatique, éducation, économie, la pollution, l'eau, etc.
Et si cette filière informatique et changement climatique se situe ici à Ouagadougou, ce n'est peut-être pas un hasard. Hein. Elle se situe juste à côté du centre de compétences de l'organisation WASCAL, qui est également un hub technique.
C'est un laboratoire de recherche commun à toutes les filières de WASCAL, doté de supercalculateurs sur lesquels l'ensemble des filières du réseau se rabattent pour la collecte et le traitement des données.
Oui, car cette recherche scientifique requiert des capacités de calcul très très importantes. Alors, monsieur le directeur, avec quel type de partenaires travaillez-vous?
Nous avons l'obligation, comme nous ne sommes pas nantis de capacités opérationnelles, de composer avec des acteurs, des décideurs, les collectivités territoriales, les ministères et autres, qui sont impliqués sur le terrain pour transférer les outils qu'on arrive à mettre en place à l'issue de la recherche afin que l'opérationnalisation puisse se faire. Là, on est dans une situation d'accompagner les décideurs à les mettre en œuvre.
quel lien vous faites avec ces différents acteurs aujourd'hui? Ces compétences, elles sont utilisées pour quoi?
Les premiers partenaires que nous avons, ce sont les structures intéressées par la donnée scientifique sur le climat. Et les outils qu'on pourrait mettre en place pour les aider à l'atténuation ou à l'adaptation. Le premier concerné, c'est l'Agence nationale de la météorologie. Ses techniciens aussi accueillent nos étudiants. Il y a également les ministères en charge de l'environnement, de l'agriculture, de l'énergie, des transports. Chaque fois qu'un étudiant cible un thème et se met en position de stage dans une structure d'accueil pour collecter les données de base en vue d'un traitement, nous en faisons un partenaire.
Alors en quoi l'informatique aujourd'hui peut aider à la lutte contre le dérèglement climatique?
Quand nous parlons d'informatique, il faut entendre les outils numériques en général. En nous appuyant sur les supercalculateurs qui permettent d'aller très loin, très rapidement dans la collecte des données, en allant dans des bases de données internationales pour les mettre à disposition des chercheurs ou des étudiants, mais aussi permettre de croiser une diversité de données et de pousser aussi loin que possible les calculs.
Ça permet de déterminer, d'identifier un nombre de scénarios, de possibilités et d'hypothèses qui en effet échapperaient probablement à la seule capacité humaine.
Mais aussi réduire le nombre d'hypothèses en maîtrisant davantage la probabilité. Si on travaille à réduire l'improbable au maximum, ça diminue l'éparpillement des opérations. On va moins tâtonner.
C'est tout le sens de la recherche appliquée. Elle donne lieu à des projets que les étudiants mènent durant leur cursus et qui sont voués à être implantés, intégrés dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples développés par vos étudiants?
Oui, nous sommes une équipe et le pilier central de la formation, c'est le directeur adjoint.
Il est à côté de nous.
C'est le docteur Koulibaly qui est juste à côté. Vous pouvez lui poser des questions précises, il est plus qualifié que moi.
Monsieur Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour.
Les étudiants ici travaillent chaque année sur des projets qu'ils décident, notamment avec vous, avec toute une équipe d'encadrants. Ils travaillent sur quoi? Est-ce que vous avez des exemples précis de projets?
Comme exemple, j'allais peut-être commencer par un étudiant burkinabé donc, qui a travaillé ici sur les facteurs d'émission de COD. Il a utilisé donc, les parcs automobiles de la ville de Ouagadougou. Il a travaillé en collaboration avec le ministère des Transports. Donc c'est quelque chose qui est très pratique que le ministère donc, des Transports pourra utiliser aujourd'hui.
Un autre exemple?
Il y a un Togolais qui a travaillé sur le potentiel hydrogène vert sur la biomasse et puis sur le solaire. On sait aujourd'hui que pour éviter donc d'avoir une certaine dépendance aux énergies fossiles, il faut aujourd'hui aller vers l'hydrogène vert.
Ça ferait partie d'un mix énergétique.
Voilà, effectivement.
On parlait d'agriculture. Est-ce que vous avez un exemple dans l'agriculture ?
Il y a une étudiante du Niger qui avait eu à travailler effectivement sur un modèle qui permet de faire l'irrigation goutte à goutte combinée avec un système photovoltaïque. C'est donc un outil numérique qui permet à l'agriculteur d'être informé sur son téléphone à distance s'il y a un problème au niveau du système.
Tout ça grâce à des capteurs en fait. Hein.
Oui, c'est des capteurs qu'elle utilise en fait.
Un autre exemple ?
Nous avons un étudiant du Niger qui a travaillé également sur la problématique de l'eau dans la ville de Niamey, notamment dans les hôtels. Il développe un circuit imprimé qu'on peut connecter donc au système. Un client d'un hôtel, on peut fixer sa consommation limite journalière à une valeur donnée. Lors de l'utilisation même, le débit est réduit. Et en même temps, le consommateur reçoit l'information sur l'utilisation de l'eau. Et son modèle peut réduire la consommation d'eau de l'ordre de 40%.
On ne va pas faire payer un volume d'eau supplémentaire, mais ce système permet de sensibiliser le client au gaspillage.
Oui, effectivement, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas forcément de les pénaliser, mais la quantité limite d'utilisation est largement suffisante pour une utilisation journalière. C'est peut-être l'excès sur lequel il est informé.
Et nous avons la chance d'avoir à côté de nous un de vos étudiants, togolais, qui va nous présenter son travail.
Oui, effectivement, Aboubakar Zourkaleni.
On va le rejoindre.
Voilà, d'accord.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour.
Bonjour monsieur, je m'appelle Zourkaleni Boubaka.
Vos travaux concernent les projections sur l'évolution de la consommation électrique au Togo.
Je suis venu avec mon thème qui est le Geotemporal Analysis of Electricity Consumption Growth, qui consiste dans un premier temps d'investir la consommation électrique au Togo au cours des 30 dernières années et maintenant utiliser ces données pour appliquer des modèles statistiques comme l'intelligence artificielle, le deep learning, pour prédire la consommation future pour une bonne prise de décision. Du coup, dans mon projet, c'était de voir réellement dans quelle mesure on pouvait réduire la consommation d'électricité ou bien utiliser l'électricité de façon efficiente.
Sur quel genre de données vous vous êtes basé pour établir cet historique de la consommation sur les 30 dernières années pour pouvoir la prévoir dans les années futures?
Nous avons utilisé plusieurs données, notamment les données sur la population. Nous avons et les données sur la consommation électrique. Le PIB par habitant, le taux d'électrification.
Alors pourquoi ces trois facteurs aujourd'hui peuvent nous servir à une projection future?
Nous voyons que plus la population augmente, plus la demande en énergie augmente. Ça va de soi. Au niveau du PIB, il faut noter que c'est un facteur important économique, c'est-à-dire ce qu'un individu lambda détient aujourd'hui dans sa poche peut déterminer le nombre de matériel qu'il peut acheter.
Parce que ce matériel va consommer de l'électricité. Hein. Donc c'est l'ensemble de tous les éléments connectés, les ordinateurs, les téléphones, la télévision.
Oui, effectivement.
Et le troisième facteur ?
Le troisième facteur, c'est le taux d'accès à l'électricité. Et c'est important.
Alors, quels sont les résultats?
Le premier résultat que nous avons constaté, entre 1990 et 2013, nous avons la consommation qui augmente.
De combien?
Elle est passée de moins de 500 kWh par année à plus de 2000 kWh par année, comme vous pouvez le constater sur notre graphe.
Donc, de 1990 à 2013, selon vos données, le Togo a quadruplé sa consommation électrique.
Effectivement.
Et à partir de 2013,
nous avons remarqué que la consommation moyenne par client est en train de diminuer depuis 2013. On s'attendait à
attendu.
Avoir, ouais, vraiment, on s'attendait à avoir une consommation moyenne qui devrait augmenter. En fait, il y a de l'efficacité énergétique qui s'applique, c'est-à-dire les ampoules qu'on utilisait dans les années 90, ce n'est plus ces mêmes ampoules qu'on utilise aujourd'hui. Et ça peut être un facteur qui diminue la consommation moyenne par client.
Est-ce qu'il y aurait d'autres hypothèses, hein, notamment au niveau des entreprises et des industries, qui pourraient adopter des processus moins énergivores, plus efficaces?
En tant que scientifique, on ne peut pas émettre des raisons directes. Ce qu'on peut faire, c'est faire une enquête maison par maison. Mais de façon globale, on peut dire que bon, l'efficacité énergétique joue un élément clé. Pourquoi nous avons dit ? C'est parce que nous avons remarqué les mêmes constats en Amérique comme au Rwanda. En Amérique, par exemple, il y a des études qui ont révélé que plus de 110% des causes de la baisse en consommation électrique est due à l'efficacité énergétique.
Est-ce que vous constatez des différences en fonction des territoires du Togo, les zones urbaines ou rurales par exemple ?
Nous pouvons voir réellement, ça va
sur vos courbes là.
La courbe en rouge ici, c'est la consommation électrique dans la région maritime. C'est la région qui vraiment a une densité très, très grande.
C'est là qu'il y a tout le bassin industriel et exactement. C'est là qu'il y a les grands centres urbains.
Exactement. Et nous pouvons voir que la consommation dépasse les 2000 kWh par année. Et la consommation moyenne que nous avons dans la région centrale, c'est la région qui est au nord du pays, qui lie le Burkina au Togo. Cette partie du Togo est un peu rurale, c'est maintenant qu'ils sont en train de connaître le développement. Probablement, c'est cela qui explique le fait qu'ils ont une consommation moyenne très bas, en fait.
Le rapport, là, entre les deux, c'est combien ?
On peut dire 3 à 4 fois.
Et cette réduction de 2013 à 2020, on la voit sur toutes les régions ?
Effectivement, on la voit sur toutes les régions, comme vous pouvez le constater. Mais la vitesse n'est pas la même. On constate que dans la première région, la région maritime, la vitesse elle est moindre comparée dans les autres régions.
Et à côté de ça, est-ce que le prix de l'électricité au kilowattheure a baissé ou a augmenté ?
Actuellement, le prix a baissé depuis 2010. En fait, ça coûte cher comparé aux autres pays. Le souci au Togo, c'est que plus de 114% de l'électricité que nous avons été importée. Il y a le Nigeria qui nous fournit de l'électricité, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais le souci, c'est que dans leur propre pays, il y a un besoin. À un moment donné, s'il faut qu'on exporte, alors il faut vendre ça plus cher.
Ce qui rend le Togo très dépendant.
Oui, effectivement, très dépendant. Et puis au Togo, comme énergie, nous utilisons plus de l'hydroélectrique. Nous avons le barrage de Nangbeto que nous partageons avec notre pays voisin, le Bénin. On doit partager les ressources.
Vous avez réussi à partager l'ensemble de ces analyses avec les partenaires au Togo, notamment avec la société d'électricité, le ministère en charge.
Effectivement, le fait que la consommation moyenne diminue, c'est vraiment important pour eux. Puisqu'à l'heure là, ils se font forcément tant de produits. Alors qu'il se peut que la population ne va pas réellement consommer ce qu'ils sont en train de produire.
Vous nous l'expliquez, hein, il y a une grande partie de l'énergie qui est importée. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ils pourraient revoir exactement leur niveau d'importation.
Exactement, exactement. Cela veut dire que la société devait faire très attention. Il ne faudrait pas qu'elle continue par produire l'électricité en se disant qu'il y aura plus de ventes pour ne pas tomber en faillite.
Ils n'avaient pas ce genre de données ?
Il faut dire non. Ils sont plus intéressés par l'évolution du nombre de clients et non leur consommation. Parce que par défaut, ils se disent que la consommation va évoluer, vu qu'il y a plus de matériel électrique.
Donc la Compagnie nationale d'électricité togolaise s'attend, compte sur une augmentation de la consommation d'électricité, mais vos travaux démontrent le contraire. Quelle est maintenant la prochaine étape ?
À partir de là, nous avons pensé à, ok, maintenant nous avons une idée de l'évolution, ça c'est bien. Maintenant, si on avait les chiffres, ça serait plus intéressant. C'est en cela qu'a constitué le deuxième objectif de notre travail. On a utilisé ces mêmes données et avec l'appui de l'intelligence artificielle, nous avons modélisé de sorte qu'on puisse prédire la consommation de l'année prochaine. Ça serait plus efficace en termes de prise de décision. Nous avons prédit qu'à 2030.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de continuer ?
Maintenant, c'est au tour de la société de voir comment continuer avec le projet.
La Société nationale d'électricité togolaise. Monsieur le directeur, ça c'est tout l'enjeu des partenariats opérationnels. Cet accompagnement, c'est un point crucial pour concrétiser les idées qui sont développées ici dans ce cursus.
Évidemment, le rôle de l'université, à partir du moment où la formation est terminée, s'arrête. Mais notre devoir, c'est de leur montrer tout l'intérêt qu'ils ont à le faire.
De les convaincre.
Parce que les retombées, c'est d'abord pour eux, avant que ce ne soit bénéfique à la société.
Merci, monsieur le directeur.
Merci beaucoup. Merci à vous.
un reportage de Samuel Turpin réalisé par François Porcheron. C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons, vous avez bien raison. 2400 milliards de dollars par an, c'est le nouveau chiffre à retenir. C'est la somme dont les pays du Sud ont besoin pour financer leur action climatique d'ici 2030. C'est ce qui ressort du rapport intitulé « Le financement de l'action climatique, accroître les investissements pour le climat et le développement » co-dirigé par l'économiste britannique Nicholas Stern et l'économiste camerounaise Vera Songwe. À quoi va servir cet argent et comment le mobiliser? Nous avons posé la question à Nicholas Stern lorsque nous l'avons rencontré à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27. Bonjour Nicholas Stern.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous avez été vice-président de la Banque mondiale au début des années 2000, vous avez été le bras droit du ministre britannique des Finances Gordon Brown qui vous a commandé en 2006 un rapport qui vous a rendu célèbre puisqu'il chiffrait pour la première fois les implications économiques du changement climatique. 16 ans plus tard, avec un groupe d'experts indépendants que vous présidez, vous publiez un nouveau rapport sur le financement de la lutte contre le changement climatique. Alors ce rapport est intitulé « Le financement de l'action climatique, accroître les investissements pour le climat et le développement ». Il vous a été demandé par la présidence britannique de la COP26 et par la présidence égyptienne de la COP27. L'objectif de ce rapport est contenu dans son titre « Il faut accélérer ».
Le rapport que j'ai co-présidé avec l'économiste camerounaise Vera Songwe et dont la rédaction a été dirigée par l'économiste indien Amar Bhattacharya, ce rapport répond à la question suivante. Quel type de financement seront nécessaires pour concrétiser l'accord de Paris obtenu en 2015? La transition énergétique est celle qui implique le plus d'investissements. Mais nous savons que ce n'est pas seulement une question de réduction des émissions. C'est aussi une question, et c'est absolument explicite dans l'accord de Paris, d'adaptation et de résilience, de pertes et de dommages irréversibles, et aussi de capital naturel. Nous avons examiné les chiffres concernant les différents types d'investissements en nous appuyant sur le travail que nous avons effectué au cours des 3 dernières années. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le niveau global d'investissement dans les économies en développement, en dehors de la Chine est extrêmement importante, mais elle n'a pas besoin de financement pour le climat, ce montant donc s'élèvera à environ 2400 milliards de dollars par an en 2030. C'est le montant de l'investissement annuel dans ces domaines qui sera nécessaire. J'ai parlé de 2030, mais le chemin à parcourir jusqu'en 2030 est évidemment très important, car cette décennie est elle-même décisive. Dans la plupart des pays, la majorité des investissements sont financés en interne. Mais certains pays en développement rencontrent plus de difficultés que d'autres. Nous estimons donc qu'environ la moitié, peut-être un peu plus de la moitié, sera financée par les pays eux-mêmes. Un pays comme l'Inde, par exemple, financera la plupart de ses investissements. Mais d'autres pays, qui sont dans une situation plus difficile, devront avoir recours à l'aide extérieure. Au total, nous estimons qu'environ 1 000 milliards de dollars de financement externe seront nécessaires. Alors, d'où viendront-ils ? Premièrement, la majorité viendra du secteur privé qui investira dans de nombreux domaines qui seront rentables. Deuxièmement, il y aura les apports des banques de développement multilatérales. Et troisièmement, les sources financières qui n'augmentent pas les dettes des pays, comme les aides bilatérales, les droits de tirage spéciaux du FMI, la philanthropie, les marchés volontaires du carbone et d'autres sortes de dispositifs. Donc c'est la réponse à la question. Il est très important que ces différentes sources s'articulent ensemble, parce que le secteur privé ne fera pas tout seul ses investissements si c'est trop risqué. Ils vont chercher à partager les risques. Le rôle des banques multilatérales de développement est ici crucial. Et en regardant les chiffres, nous sommes arrivés à la conclusion qu'elles devront tripler leurs investissements durant les 5 prochaines années. Nous détaillons dans notre rapport comment cela peut être fait. Et c'est parfaitement possible.
Et le rapport commence par « Notre monde est en péril, la crise climatique s'accélère, l'action actuelle est trop faible et trop lente, tout retard est dangereux ». La notion d'urgence est dans votre rapport.
L'urgence est absolument essentielle. Nous avons posé la question suivante. Comment pouvons-nous répondre à la hauteur des besoins au cours de cette décennie, et comment accélérer à partir de 2030. Les émissions dans le monde continuent d'augmenter, alors qu'elles devraient diminuer rapidement dès maintenant, si nous voulons garder l'objectif de 1,5 degré de réchauffement et qui, lui, arrive à grands pas. Il s'agit d'une question d'urgence et d'échelle. Et il est frustrant de constater que les discussions se passent comme s'il s'agissait de quelque chose que nous pouvons faire de manière détendue, à notre propre rythme. Ce n'est pas le cas. C'est absolument urgent. Cette décennie est décisive. Les investissements réalisés dans le monde entier, mais plus particulièrement dans les marchés émergents et les économies en développement, sont décisifs. Car c'est là que les pays développeront leur système énergétique, leur système électrique. Vous savez, la quantité d'électricité en Afrique par habitant équivaut à un 50e de la quantité disponible pour un Indien, qui équivaut à un 10e de l'électricité disponible pour un Américain. Ce sont des pays qui vont développer leurs propres sources d'énergie, en particulier leurs sources d'électricité. Ce qui se passera dans ces pays au cours des 10 prochaines années est donc absolument crucial. Et c'est pourquoi le financement d'un changement rapide dans ces pays est essentiel. Mais l'urgence et l'ampleur du problème ne sont pas suffisamment comprises ou reconnues.
Et c'est pour ça que vous dites aussi que c'est un moment de grande opportunité. Il est donc encore temps de se mobiliser et nous avons tous à y gagner.
Oui, les investissements réalisés en Inde, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Chine sont un grand avantage pour le monde riche. Ces investissements, s'ils sont propres, je dis bien s'ils sont propres, réduiront la pression climatique à laquelle nous devons tous faire face. Vous savez que l'Allemagne est confrontée à des inondations, que la France est confrontée à des sécheresses qui impactent ses fleuves et qui empêchent le refroidissement de ses centrales nucléaires. Les incendies de forêt ont aussi été un énorme problème aux États-Unis et en Australie. Le monde riche va souffrir si nous persistons dans ce type de croissance polluante dans le futur, comme nous l'avons fait dans le passé. Et bien sûr, ce sont les pays les plus pauvres qui en font le moins, qui en souffrent le plus. Il est donc absolument urgent d'agir. C'est maintenant que les investissements propres en Inde, au Vietnam, en Afrique du Sud ou au Nigeria sont utiles à tous. C'est un bénéfice mutuel.
Il y a 16 ans, c'est vous qui avez élaboré le fameux chiffre de 100 milliards de dollars à mobiliser par an à partir de 2020 pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique à réduire leurs émissions et à faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais cet objectif de 100 milliards n'a toujours pas été atteint et comme vous l'écrivez, cela a érodé la confiance.
The history of the promise of 100 billion a year in flows from rich countries.
L'histoire de la promesse des 100 milliards de dollars par an versés par les pays riches vers les pays pauvres remonte à Copenhague en 2009 lors de la COP15. J'étais impliqué en tant qu'individu et non en tant que pays. Je n'ai jamais négocié pour un pays. Je suis professeur à l'école d'économie de Londres. C'est ça mon identité, et je ne représente personne d'autre que moi-même. À ce moment-là, je travaillais en étroite collaboration avec l'ancien Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi. Il était une figure intellectuelle et politique très puissante, une personne très inspirante qui négociait à l'époque pour l'Union africaine. Lorsque j'étais chef économiste à la Banque mondiale, j'ai travaillé avec lui sur une commission en Afrique. Il m'a demandé de l'aider. J'ai donc mis en avant ce chiffre de 100 milliards de dollars, extrait du rapport Stern sur l'économie du changement climatique. Mais il est très important de noter que c'était un chiffre à utiliser pour négocier, notamment avec les États-Unis. Zenawi et moi voulions que ce soit de l'argent public. Au cours de la discussion, il est apparu clairement qu'à moins de parler de fonds publics et privés, le projet n'avancerait pas. Mais nous voulions plus que cela. Quoi qu'il en soit, ces 100 milliards de dollars ont donc été promis en 2009. Ils ont été un élément clé de l'accord de Paris en 2015. C'est désormais une question de confiance, une question de respect de la parole donnée. Il semble que l'objectif sera enfin atteint l'année prochaine. Il faut que ce soit le cas et qu'ensuite nous amplifions les flux pour répondre à l'urgence et à l'échelle dont nous avons besoin pour tenir les engagements de Paris. Ensuite, ce que nous proposons dans ce rapport est extrêmement différent. Avec l'économiste camerounaise Vera Sangwe et l'économiste indien Amar Bhattacharya, nous disons, si vous êtes sérieux dans votre volonté d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, voici les investissements que vous devez faire. Et voici le financement dont vous avez besoin. Notre rapport inclut aussi la nécessité de réformer la finance mondiale, la Banque mondiale, le FMI, et de décomposer le secteur privé. Tout cela aussi est extrêmement important.
Vous écrivez que les principales priorités d'investissement doivent englober la transformation du système énergétique, c'est vraiment la clé, mais répondre aussi à la vulnérabilité croissante des pays en développement au changement climatique et réparer les dommages causés au capital naturel et à la biodiversité. Alors après la crise du Covid, dans le contexte aussi de la guerre en Ukraine qui démontre notre dépendance aux énergies fossiles, est-ce que vous pensez que votre rapport va être suivi?
I think that it's perfectly possible to follow the recommendations of our.
Je pense qu'il est parfaitement possible de suivre les recommandations de notre rapport. Mais il est surtout nécessaire de le faire parce que nous devons tenir nos engagements pris à Paris. Et l'arrivée de cette crise énergétique qui découle de la guerre avec l'Ukraine souligne encore plus fortement que nous devons nous éloigner des combustibles fossiles. D'où vient la crise énergétique? Eh bien, elle vient d'une baisse très rapide, pas énorme, mais rapide et significative, de l'approvisionnement d'une région particulière du monde. Cette crise provient donc de notre dépendance aux combustibles fossiles, qui sont fournis de manière significative par des régions instables du monde. Nous avons vu que de très petites baisses dans cet approvisionnement peuvent avoir des effets très importants sur le marché. La réponse à cette situation est la suivante. Ne soyez pas dépendants des combustibles fossiles. Et nous ne sommes pas obligés d'être dépendants. Nous savons désormais que c'est plus sûr en termes de sécurité énergétique de dépendre des énergies renouvelables et en plus c'est moins cher. Donc c'est moins cher, plus sûr et ça ne nuit pas à notre santé. Il semble absolument clair que nous devrions aller plus vite et plus fort dans cette direction en nous éloignant des combustibles fossiles. Je pense que ces arguments sont de mieux en mieux compris. Par exemple, la stratégie de l'Europe est très claire à ce sujet. Les États-Unis avancent beaucoup plus vite maintenant que la loi sur la réduction de l'inflation a été adoptée. L'Inde avance très vite. Il y a donc des signes très positifs de progrès dans la création de sources d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas assez rapide. C'est très important de le comprendre. Ce rapport a pour but de générer des fonds qui peuvent aider à accélérer ces investissements.
Alors pas assez rapidement, c'est le cas de le dire. Il y a Urgewald, les Amis de la Terre France, Reclaim Finance et 36 organisations africaines qui ont publié un rapport sur qui finance l'expansion des combustibles fossiles en Afrique. Et depuis 2019, 98 milliards de dollars ont été investis pour développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans 48 pays africains. Des banques françaises comme BNP Paribas ou Crédit Agricole, qui font du greenwashing ici, financent les projets d'entreprises comme Total Energy, qui représente 14% de l'expansion de ces projets sur le continent. Là, nous sommes loin de la transformation du système énergétique que vous appelez de vos voeux dans votre rapport.
We do not need more oil and gas in the world.
Nous n'avons pas besoin de plus de pétrole et de gaz dans le monde. Nous avons besoin d'une nouvelle répartition à la suite de la guerre qui a causé une très courte baisse des approvisionnements. Mais à moyen terme, c'est-à-dire dans 5, 10 ou 15 ans, nous n'aurons plus besoin de plus de combustibles fossiles. Nous nous en éloignons déjà très rapidement. Mais malheureusement, dans cette crise, les fournisseurs de combustibles fossiles ont fait preuve d'opportunisme en essayant d'insinuer que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de plus d'exploration et d'extraction de combustibles fossiles à moyen terme. C'est faux. Nous n'en avons pas besoin. Nous devons juste gérer les 2 ou 3 prochaines années. Il se peut que nous devions garder certaines centrales à charbon ouvertes un peu plus longtemps que nous l'aurions souhaité. Nous devrons peut-être extraire du pétrole et du gaz de certains gisements existants un peu plus longtemps que prévu. Mais de nouvelles explorations et de nouvelles sources ne sont absolument pas nécessaires. L'Agence internationale de l'énergie a été très claire à ce sujet. Et dans ce contexte, quelle est la position de l'Afrique? Il est évidemment compliqué pour les pays riches de développer massivement leurs propres réserves de combustibles fossiles et de dire à l'Afrique qu'elle ne peut pas le faire ou qu'elle ne doit pas le faire. Quelle est la réponse à cette situation? Eh bien, nous la connaissons. L'énergie du futur en Afrique, ce sont les énergies renouvelables, en particulier le solaire. Le défi est donc de soutenir l'Afrique et de la soutenir à grande échelle dans le développement des énergies renouvelables. Si le coût du capital à investir dans le solaire n'est pas trop élevé, c'est l'énergie qui sera la plus rentable à développer. Pour l'instant, l'utilisation de l'électricité en Afrique est minuscule et elle a donc besoin de se développer très rapidement. La bonne chose à faire est donc que les pays riches, au sein des agences de financement, réduisent le coût du capital pour le solaire. Si le coût du capital est de 6 ou 8%, le solaire bat toutes les énergies fossiles. Mais s'il est de 15%, ce n'est pas le cas. Parce que pour le solaire, il faut investir au début. Mais ensuite, le soleil qui brille ne vous coûte rien. Alors que si vous investissez dans les combustibles fossiles, vous devez aussi investir au départ dans des infrastructures. Mais vous devrez en plus payer le fioul dont le prix est très volatile. Il est donc crucial d'apporter à l'Afrique ce type de capital à faible coût qui peut permettre l'expansion du solaire. Nous ne pouvons pas laisser l'Afrique continuer à dépendre des combustibles fossiles en ne lui apportant pas ce type de financement. Mais si nous le faisons, le futur de l'énergie en Afrique est très attrayant.
Mais il y a des pays africains, je pense à la République démocratique du Congo par exemple, qui réclament le droit d'exploiter ces énergies fossiles. Ce discours est encore sur la table aujourd'hui.
C'est vrai que les pays ont ce droit. On ne peut pas leur refuser, mais ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est un très mauvais investissement. Si vous investissez maintenant et que vous obtenez un résultat dans 10 ou 15 ans, les prix du pétrole et du gaz seront beaucoup plus bas. C'est donc très probablement un mauvais investissement. Si vous regardez en arrière, dans les années 70, le prix du pétrole était très élevé. Mais au milieu des années 80, il est descendu à 20 dollars le baril et il est resté comme ça pendant 15 ans. Ces investissements dans l'exploitation des énergies fossiles prennent 10, 15 ou 20 ans et d'ici là, ils ne seront plus rentables. Cela va devenir de très mauvais investissements. Pourquoi ne pas investir dans les technologies du futur? Donc nous ne nions pas ce droit à l'exploitation, mais nous devrions dire que ce choix sera un mauvais choix. Par contre, investir dans le solaire sera un très bon investissement, à condition que le coût du capital soit vraiment réduit. C'est une condition majeure et c'est quelque chose sur lequel les pays riches peuvent vraiment faire la différence, particulièrement en travaillant avec les banques multilatérales de développement qui peuvent rendre le coût du capital beaucoup moins cher pour les investissements dans les renouvelables.
nous ferons passer le message. Et au passage, le rapport des ONG souligne que l'expansion des énergies fossiles ne répond pas aux besoins de développement de l'Afrique, en argumentant par exemple que 43% de la population du Nigeria n'a par exemple pas accès à l'électricité aujourd'hui en 2022, alors que le pays est le troisième plus gros producteur d'hydrocarbures du continent. Qu'en pensez-vous ?
The most important thing is to get clean energy to poor people.
Le plus important est de fournir de l'énergie propre aux personnes pauvres. L'énergie est vitale pour le développement. C'est donc le défi à relever. Quelle est la meilleure façon de le faire ? Quelle est la façon la moins chère ? C'est le solaire. Si nous regardons les conséquences des pollutions du passé, l'endroit où les gens souffriront le plus sera l'Afrique. Dans le nord du Nigeria, le désert progresse. Dans le sud, les déversements de pétrole au fil des ans ont été dévastateurs pour l'environnement. La pollution de l'air aussi, qui tue 8 à 10 millions de personnes chaque année dans le monde. Quelle que soit la manière dont on considère le défi de fournir de l'énergie aux populations pauvres, la réponse est l'énergie solaire décentralisée. Et bien sûr, d'autres potentiels très importants, l'éolien, l'hydroélectricité, qui représentent aussi un grand potentiel en Afrique. Donc, investir dans une façon sale de faire les choses est un mauvais investissement. Cela va affecter les gens par la pollution de l'air à court terme et par le biais du changement climatique à moyen terme. Je pense que la voie à suivre est claire.
Vous avez été le premier économiste à alerter sur le fait que le coût de l'inaction serait plus élevé que le coût de l'action. Quand vous constatez qu'aujourd'hui, plus de 1000 scientifiques d'une cinquantaine de pays ont créé le malaise en affirmant qu'il n'est plus acceptable d'affirmer publiquement que l'on soit toujours en position de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Vous avez sans doute vu cette mobilisation des scientifiques. Comment est-ce que vous réagissez ?
Je pense que le défi de maintenir le 1,5 degré est intense. On ne peut pas dire « c'est un objectif, on l'a raté, ce n'est pas grave ». C'est une ligne rouge. Si nous allons au-delà, les difficultés risquent d'être extrêmes. Nous pouvons énumérer les dangers des points de basculement. Les points de basculement, c'est le fait que quand le permafrost commence à fondre, il libère du méthane. Quand vous coupez davantage la forêt amazonienne, c'est le système dans son ensemble qui est déstabilisé et notre système forestier pourrait potentiellement s'effondrer. Si la couche de glace de l'Antarctique commence à fondre dans l'océan, vous obtenez une augmentation très rapide du niveau de la mer. Ces points de basculement sont extrêmement dangereux. Nous devons donc vraiment nous concentrer là-dessus. Mais je pense que nous devons le faire en allant bien au-delà du fait que le coût de l'inaction est plus important que le coût de l'action. Cette affirmation est vraie. C'est la principale conclusion du rapport Stern il y a 16 ans. Mais l'argument est plus fort que ça aujourd'hui. Nous avons entre les mains la grande histoire du XXIe siècle, c'est-à-dire une utilisation beaucoup plus efficace des ressources. Le propre est déjà moins cher que le sale dans de nombreux domaines, en particulier dans l'électricité. Et puis, le coût sanitaire de la pollution est immense en termes de vie perdue. 8 à 10 millions de personnes par an meurent de la pollution de l'air. Les coûts de santé sont immenses. Donc, les investissements que nous devons faire seront des investissements très forts et à haut rendement pour stimuler la croissance. Nous savons que l'objectif zéro émission est la grande histoire du XXIe siècle. Nous avons entre les mains les différentes façons de faire les choses qui seront bénéfiques pour le développement, pour la santé, pour la lutte contre les inégalités. L'argument est donc devenu plus fort que seulement le coût de l'action par rapport au coût de l'inaction, même s'il est très clairement vrai que le coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de l'action.
Thank you very much. Merci beaucoup.
Pleasure.
Merci à François Porcheron pour la traduction de Nicolas Stern et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.